Et donc, il s'est planqué, il logeait à côté, et en fait, il s'est planqué toutes les nuits dans la brasserie. Il a creusé un pilier, et morceau par morceau, il se cachait dans il se cachait dans un placard à balai, et puis ensuite, il allait dormir la journée, il recommençait tous les soirs. Il a fabriqué lui-même, parce qu'il était un artisan, il était très fort en horlogerie, etc. Il a fabriqué lui-même une bombe. Il a mis des mois à la mettre au point. Il a attendu qu'Hitler vienne faire son discours, c'est donc en novembre 1939. Il avait réglé son système, lui il a pris la fuite, il est parti, il voulait fuir en Suisse pour revendiquer son attentat et l'expliquer au reste du monde. Et en fait, l'attentat a manqué parce que Hitler est parti une heure plus tôt que prévu pour des raisons météorologiques. Donc, voilà, il y avait une tempête qui arrivait et il voulait prendre son avion très rapidement pour regagner Berlin. Et pourquoi il voulait regagner Berlin? Parce qu'il était pressé de préparer l'invasion de la Belgique et la France, parce qu'à cette époque, ils pensaient encore pouvoir nous attaquer en hiver. Voilà. En fait, l'hiver a été épouvantable, il y a eu énormément de neige, c'était un hiver très très froid, et du coup, il n'a pas pu, donc il a été obligé d'attendre le printemps. En tout cas, toujours est-il que lui, il s'emballe dans son avion, et les dignitaires restent là à boire de la bière et à chanter, je ne sais pas ce qu'ils chantaient à l'époque. Et d'un seul coup, boum, badaboum, la bombe a bel et bien fonctionné, elle a tué plusieurs personnes, elle a fait des dizaines de blessés, mais pas celui qu'il fallait. Voilà, donc c'est comme ça que commence notre chronique. On a changé ce petit détail qui est que Hitler meurt bel et bien. Alors Hitler mort, bien entendu, le cours de l'histoire est différent, mais pour autant, ça n'arrête pas la guerre. Parce que voilà, l'Allemagne avait déjà envahi la Pologne, et la situation géopolitique était telle que de toute façon, une guerre entre les différentes nations pouvait difficilement être évitée. Mais en quoi est-ce que la mort d'Hitler change le cours de la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien tout simplement parce que l'attaque allemande du printemps 1940 sur la Belgique et sur la France a été quasiment uniquement de son fait. Il faut savoir que les généraux allemands à l'époque ne voulaient pas attaquer la France. Ils avaient peur de la ligne Maginot, comme nous on avait peur de la ligne Siegfried. Ils avaient peur de l'armée française parce qu'ils se souvenaient de 14-18 comme l'armée française avait peur de l'Allemagne. Chacun des deux belligérants était persuadé que l'ennemi était supérieur. Et aucun des deux voulait y aller. Ils avaient très peur de rentrer dans une guerre d'invasion, comme ça, de rentrer sur un territoire. Et ils n'ont pas eu le choix, parce qu'Hitler, de toute façon, voilà, il fallait y aller, c'était ça, au marche ou crève. Donc lui, il n'a rien voulu entendre, il a lancé cette guerre, et cette guerre qui a été extrêmement courte, et cette rapidité a stupéfait le monde entier. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut savoir que l'armée française était considérée comme la première armée du monde, et la meilleure, et en 47 jours, elle a perdu. Et à cet égard, notre premier album, donc, qui raconte un cours différent de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu deux éléments principaux qui expliquent la victoire historique allemande, qui sont la décision et la détermination d'Hitler, et la météo. La météo extrêmement sèche du printemps, qui a permis à Rommel de traverser les Ardennes avec ses Panzers, de faire ce que personne ne pensait qu'était possible, il l'a fait en quelques jours, ce qui fait qu'en fait, l'ensemble, il faut comprendre géographiquement parlant comment ça s'est passé. Les troupes franco-britanniques étaient massées au nord de la France, côté de la frontière belge, et lui, en redescendant par les Ardennes, il les a encerclés. Et ensuite, il les a repoussés vers la mer. Et c'est ça qui s'est passé. Et dans notre chronique, on a changé deux éléments. On a changé un élément, qui est le principe de départ tout à l'heure, de la mort d'Hitler. Et un élément qui est très important quand on analyse l'histoire de cette guerre, mais l'histoire des guerres en général, c'est la météo. La météo peut changer le cours d'une bataille, peut changer le cours d'une guerre. Et là, en l'occurrence, on a imaginé bien entendu qu'il a beaucoup plu. Donc Rommel ne peut pas faire ce mouvement, ce qu'on appelle le mouvement de faux, qui repoussait les Français et les Anglais vers la mer. Et du coup, le cours de la guerre en est changé, c'est-à-dire que l'invasion allemande, elle fonctionne très bien en Hollande et en Belgique, comme elle a fonctionné de toute façon, c'est-à-dire qu'en quelques jours, toutes les défenses tombent. Mais ensuite, sur le front français, eh bien, il y a une espèce de guerre de position qui s'installe. C'est-à-dire qu'ils rentrent en France, et puis petit à petit, ils sont arrêtés par la résistance française, par l'armée française, et puis s'installe une guerre de position qui prend le quart nord-est de la France, c'est à peu près ce qui s'est passé en 14-18, avec, qui devient une guerre de position. Et ce qu'on raconte dans le tome 1, c'est la bataille de Paris, puisque quand même dans le premier mouvement invasif, parce qu'on a beau faire une uchronie, on ne peut pas nier un certain nombre de réalités militaires de l'époque qui sont la supériorité, pas tant ni de la vaillance, ni de l'armement des Allemands, mais de leur communication. Et une nouvelle manière de faire la guerre. En 1939-40, l'armée française faisait encore la guerre à l'ancienne, si j'ose dire, c'est-à-dire ils disséminaient leurs blindés au milieu de l'infanterie. C'est-à-dire que les blindés étaient l'appui de l'infanterie, et donc on les disséminait dans les différents régiments, etc. Les Allemands, eux, ils ont fait des unités blindées entières qui ne faisaient que ça, et qui étaient capables d'aller très très vite, très très loin, et de rentrer dans un pays. Et ça les a beaucoup aidés dans le début du conflit. Et donc il y a une évidente supériorité de ça, à ce niveau-là, et puis surtout au niveau des communications. Hier, on a fait un débat avec un historien, qui nous racontait qu'il a discuté avec d'anciens soldats de l'armée française qui ont fait la guerre à cette époque. Et il y en avait un d'entre eux qui lui racontait qu'il était commandant d'une unité de char et que, alors que les Allemands parlaient par radio pour se donner des ordres, lui, il avait une espèce d'antenne avec une radio, mais il n'avait pas la radio. Et donc, pour donner des ordres en plein cœur de la bataille contre les panzers allemands, il était obligé d'ouvrir la tourelle et de gueuler ou de faire des signes au tank d'à côté. C'était totalement surréaliste. Donc, non, ils ont pris une pilée, mais c'était pas parce qu'ils étaient moins forts. Les chars français étaient meilleurs que les chars allemands à l'époque, il faut le savoir. Donc, on avait quand même un certain nombre d'atouts. Mais voilà, il s'est passé un certain nombre de choses qui expliquent la défaite. Donc, dans notre chronique, dans notre volume 1, les Allemands descendent quand même très très fortement et ils arrivent aux portes de Paris. Et la grande question qui se pose aux Alliés à ce moment-là, c'est défendre Paris. Parce que symboliquement, vis-à-vis du monde, si les Allemands prennent Paris, c'est comme s'ils avaient pris la France. Et il ne faut pas que ça arrive. Et donc c'est ce qu'on raconte dans notre tome 1. Et le tome 1, en plus de cette histoire uchronique et donc cette version alternative de la guerre, nous a permis de restaurer quelques vérités. En tout cas, on a essayé d'insuffler quelques gouttes de vérité par rapport à ce qu'a été la drôle de guerre, comme on l'a appelée, qui était drôle, mais pas pour ceux qui l'ont faite. Parce que, très curieusement, la débâcle française de 1940, dans l'inconscient collectif français, on pense que c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands sont arrivés, les Français ont jeté leurs fusils, leurs casques, ils sont partis en courant, ils ont dit « Voilà, moi je veux pas me battre ». Ils se sont barrés, ils ont tous été faits prisonniers, les Allemands ont débarqué sur les Champs-Élysées, la guerre était finie. C'est totalement faux. En 47 jours, il y a 100 000 soldats français qui sont morts. Alors, pour une guerre qui n'a pas eu lieu, ça fait quand même beaucoup de victimes, quoi. Et il y a 40 000 Allemands qui sont morts et 60 000 qui ont été blessés. Donc il y a eu à peu près ils ont eu les mêmes pertes des deux côtés, sauf que nous, on a eu beaucoup plus de morts. Il y a des régiments entiers qui ont été décimés, donc qui ont perdu 90% de leurs effectifs, et en faisant la guerre, pas en restant à se faire pilonner, abrités dans une ferme qui avait été désertée par ses habitants. Ils se sont battus comme des chiens contre les Allemands, pour une partie d'entre eux. Il y a une autre partie de l'armée française qui n'a pas vu la guerre du tout, mais pour des raisons d'organisation, et notamment d'organisation au niveau de l'état-major. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au bon endroit, on leur donnait des ordres, on les envoyait à droite, on les envoyait à gauche, on les envoyait jamais là où il fallait, parce que l'état-major était complètement désorganisé, parce qu'on avait un système de communication qui était déplorable, et parce qu'il y avait une partie de l'état-major qui avait entériné le fait qu'on allait perdre la guerre, de toute façon. C'est les gens qu'on a appelés le parti de la défaite. Et pour toutes ces raisons, il y a eu des soldats français qui se sont battus, il y en a eu énormément qui sont morts. Il y a des régiments entiers d'artilleurs, notamment, qui se sont sacrifiés pour permettre le réembarquement de tout ce qui restait de troupes français et anglais. Il y a des gens qui disaient « on va les tenir pendant 2 jours, le temps que vous rentriez dans vos bateaux ». Ils savaient qu'ils allaient tous mourir. Donc c'est quand même assez affreux et assez affolant et inquiétant de se dire que 60 ans plus tard, ce qui reste dans l'inconscient collectif français, c'est la 7e compagnie, quoi. Les mecs, tout ce qu'ils pensaient, c'était à bouffer du jambon et à y aller discuter, chanter dans la campagne. Et surtout, dès qu'ils voyaient des Allemands, ils se planquaient derrière des fourrés. C'est faux. Et au-delà du simple constat du fait que c'est injuste vis-à-vis des victimes, on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que la réalité historique, qui est celle de la résistance de l'armée française face aux Allemands, est devenue, dans l'inconscient collectif, un tel mensonge par rapport à la réalité? Alors, il y en a deux. Le premier, ça recoupe celui dont je parlais tout à l'heure, qui est que la première armée du monde est défaite en un mois et demi. Il y a une stupeur qui frappe le monde entier militairement parlant, ça ne s'explique pas. Donc les gens, évidemment, cette défaite absolue, cette débandade, elle, dans l'inconscient collectif, elle devient un refus de combattre, premièrement. Deuxièmement, il y a une deuxième raison, qui est qu'une partie des politiques et de l'état-major français étaient des gens qui préféraient Hitler au Front populaire. C'était une expression qui revenait bien souvent à l'époque, c'était plutôt Hitler que le Front populaire. Donc c'était des gens qui avaient entériné la défaite, la collaboration, qui avant la guerre avaient œuvré pour tenter de rapprocher les nazis avec les Français, et qui de toute façon préféraient qu'on soit... Alors occupé peut-être pas, il ne faut peut-être pas exagérer le sentiment, la volonté d'avoir son pays occupé par un ennemi, ou par une nation étrangère, il y a quand même extrêmement peu de gens qui l'avaient. Mais ils souhaitaient avoir l'équivalent du régime allemand en France, et pour ça ils étaient prêts à tout, y compris à faire perdre l'armée française. Et ces gens-là... Ensuite, lorsque la France a été libérée, il a fallu qu'ils justifient leur attitude. Et donc, il y a une construction mentale qui a été de dire, de toute façon, ce n'est pas nous qui avons œuvré à la défaite de la France, elle était inévitable. Et elle était inévitable pourquoi? Parce que l'armée française était en lambeaux, l'armée française a refusé de se battre, donc qu'est-ce que vous voulez que vous dites? On ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est une construction, et c'est une construction de la droite française qui irrigue notre politique depuis cette époque, depuis son époque du Front populaire, le début du XXe, jusqu'à aujourd'hui. Moi, quand aujourd'hui je vois des gens de l'UMP qui sont confrontés à un dilemme entre se dire qu'est-ce qu'on va faire au deuxième tour, est-ce qu'on va voter Front National ou est-ce qu'on va voter socialiste, quand vous avez des discours de Sarkozy qui revient sur mai 68 et ensuite qui revient sur les acquis de la résistance à la libération, tout ce que la résistance a créé, la sécurité sociale, etc., tous les acquis sociaux dont on a bénéficié pendant 60 ans, c'est il y a une partie de la droite française qui de toute façon n'est jamais sortie, et aujourd'hui encore dans ce courant, plutôt Hitler que le Front Populaire. Et on voit bien dans les dissensions de la droite française aujourd'hui, entre ceux qui sont partisans de l'alliance avec le Front National et ceux qui la refusent. Et la droite républicaine contre la droite non républicaine. Et en fait, c'était déjà la problématique de l'époque. Voilà. Et alors, on est un petit peu loin de la Deuxième Guerre et de ce qu'on a raconté, mais il n'empêche que voilà. Il y a aussi dans cette. C'est pas une uchronie revancharde, c'est-à-dire que pour le. Là, je parle que du point de départ, hein, c'est-à-dire du premier tome. Quand on raconte en effet que la France n'a pas pris cette déculottée, même si militairement elle est mal en point, c'est pas par esprit de revanche. On n'a pas l'intention de faire gagner la France contre les Allemands, on s'en fout. Enfin, c'est pas notre génération, et puis de toute façon, on n'a pas de compte à régler. Mais on essaie d'irriguer cette histoire purement fictive du maximum de réalité et de restaurer deux, trois choses qui, à mon avis, sont de toute façon, qui doivent être rectifiées dans ce qui nous reste aujourd'hui du début de la Deuxième Guerre mondiale. Après, il y a le reste, après, il y a la collaboration, la résistance, etc. Mais là, je parle uniquement du début de la drôle de guerre. Et c'est pour ça que, dans notre album, on raconte la bataille de Paris. Voilà, j'ai parlé assez longtemps ou...
Oui. Il n'y a pas de souci, parce que l'objectif, c'est que vous parliez le moins possible. Dans ce premier tome, et après, ça continue dans le reste de la série, on voit que, effectivement, cet esprit de restauration se trouve dans la narration et dans le dessin même, puisque, au final, on va suivre des histoires de soldats, pas l'histoire en elle-même, qui se concentre au tout début dans des prologues assez courts, mais que vraiment la restauration de ce qui était réellement cette guerre et de ce qu'elle aurait pu être aussi par la vision des soldats dans Paris, notamment dans le premier tome, et dans le deuxième au niveau de la prise de Gibraltar avec un soldat allemand et un soldat de la Légion espagnole. Et donc pourquoi donc cette volonté narrative, et après dans le dessin, comment elle s'est construite?
Alors au niveau scénaristique, en fait, quand j'ai lancé le concept et que j'ai écrit la chronologie alternative de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on est parti de ce principe-là, quand vous changez un élément, vous changez tout. À partir du moment où l'Allemagne n'envahit pas la France en deux mois, ben, c'est toute la guerre qui a changé. Voilà. Tout change, les alliances changent, le regard que portent les autres belligérants sur leurs alliés ou sur leurs ennemis change. Donc j'ai déroulé un ensemble chronologique de toute la guerre. Il y a une ligne de front, je l'ai dit, qui s'installe sur le territoire français, et donc qui devient une guerre de position comme la guerre 14. Ce faisant, les Espagnols attaquent la France par le sud, qui était quelque chose qui, dans la réalité historique, avait été demandé par les Allemands et refusé par les Espagnols, parce qu'ils n'avaient pas eu les concessions territoriales qu'ils voulaient, notamment dans les colonies, et puis parce que Franco était extrêmement malin, et il ne voyait pas tellement son intérêt à faire ça, et puis surtout, la France avait été vaincue. Donc de toute façon, il n'y avait plus d'attaque possible. Donc là, on a changé ça, ce qui donne, dans le deuxième tome, une alliance entre les Espagnols et les Allemands pour prendre Gibraltar. Donc le rocher de Gibraltar, c'était l'entrée de la Méditerranée. Qui tenait Gibraltar, tenait la Méditerranée. Et c'est les Anglais qui tenaient à l'époque, et d'ailleurs qui le tiennent encore aujourd'hui, c'est encore un territoire britannique. Et donc ce qu'on raconte dans ce deuxième volume, après la bataille de Paris du Thomas, on raconte dans le deuxième volume la tentative de prise de Gibraltar par un ensemble armé qui est composé de soldats allemands et de soldats espagnols. Et puis bien entendu, petit à petit, on va découvrir au sein de l'armée allemande elle-même, qui remonte jusqu'au sein de l'état-major allemand, sachant qu'à cette époque, dans notre chronique, c'est Göring qui a pris la succession de Hitler, des dissensions, des trahisons, chacun protégeant ses intérêts qui ne sont pas forcément ceux de son pays ou ceux de son armée. Et ainsi de suite. Ensuite, on a continué à dérouler la plot. Moi, j'ai écrit une chronologie qui court sur 4 ans, enfin 5 ans, 4 ans et demi, c'est-à-dire 39-44, puisque cette version alternative de la guerre, elle s'arrête en 1944. Et à l'intérieur de ça, chaque scénariste est venu piocher une histoire différente, et à chaque fois avec, en effet, le cahier des charges que je leur avais donné, en plus du fait d'aller choisir des événements importants de la chronologie, c'était de les raconter à histoire humaine, à échelle humaine, c'est-à-dire vu par les yeux d'un soldat, à chaque fois d'une nationalité différente. Donc le volume 1, c'est un soldat français, le volume 2, c'est un soldat allemand, le volume 3, c'est un soldat anglais, etc., etc. Voilà. Hervé, tu as quelque chose à dire ou tu dors ?
Je ne dors pas.
Alors on t'écoute.
Est-ce que tu
tu aurais une question pour moi?
Bien sûr. Je croyais que... En fait, dans cette volonté de restauration, on voit par exemple, c'est notamment très présent dans le premier et dans le second tome, c'est que l'ennemi est assez peu finalement visible dans le premier tome. C'est la nuit, ils se ressemblent à peu près à tous, et les gens qui ont des particularités, c'est les camarades soldats, c'est ceux qui sont à côté, c'est ce dont le soldat, donc c'est l'histoire, connaît finalement leur propre histoire, à partager des choses. Moi,
c'est ce que j'ai ressenti en recevant... c'est même pas un scénario, ce que je reçois c'est un découpage, donc c'est quelque chose de très précis. Et c'était évident qu'il fallait mettre l'accent sur les personnages en fait, hein. Et essayer de leur donner une humanité, de les travailler particulièrement. Et le fait que les amants soient assez distants et pas très personnalisés en fait, c'est quelque chose qui m'a paru aussi évident en ressentant le scénario. C'est moins long que David, mais...
je vais enchaîner sur le travail de recherche derrière. Je pense que ça a été principalement vous, David. Combien de temps ça a pris, sur quoi vous êtes basé, et qu'est-ce qui vous a fait choisir ces moments précis de basculement du chrono?
J'ai passé 6 mois à écrire la chronologie. 6 mois parce que c'est un document qui doit faire 50 ou 60 pages et qui retrace les événements principaux d'une guerre mondiale et qui concerne 5 continents. Quoi. Donc forcément, comme je disais tout à l'heure, quand on change un point, un endroit, on change un point à l'autre bout du monde. Donc tout est différent, la guerre en Asie est différente, la guerre en Afrique est différente, les alliances sont différentes. Dans notre chronie, les Japonais n'entrent pas en guerre contre les Américains. Et par contre, ils ont des comptes à régler avec les Russes, avec qui ils avaient perdu la guerre quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont l'intention de se tailler un territoire le plus immense possible en Asie et principalement en Chine. Voilà. Et les Américains, qui avaient du mal à décider leur opinion publique à rentrer en guerre, ont deux intérêts principaux. Le premier, c'est d'aider les Occidentaux à résister contre les Allemands. Et le deuxième, et c'est presque le point principal, ils veulent empêcher au maximum les Japonais, les communistes d'un côté, mais les Japonais aussi, d'avoir une expansion la plus grande possible en Asie du Sud-Est. Et c'était amusant de jouer avec ça, parce qu'à partir du moment où ils ne sont plus en guerre, où les Japonais ne décident plus d'attaquer les Américains, mais décident d'attaquer les Russes, il faut que les Américains les empêchent d'étendre leur influence en Asie, et sans leur déclarer la guerre. Donc ce sont leurs alliés, ce sont leurs pires alliés. Donc ils leur proposent de venir les aider, et bien entendu les Japonais leur disent « Bon écoutez, oui, vous pouvez nous aider, mais pas trop. » Et voilà, donc il se passe des choses, et puis quand même les Américains passent par-dessus ce frein entre guillemets japonais, ils débarquent en Sibérie, et puis ensuite ils entrent en Asie du Sud-Est, ils vont jusqu'en Mongolie, etc. Donc il y avait beaucoup de choses comme ça, le front franco-allemand étant figé pendant 3 ans, les Allemands, à la fois, n'ont pas besoin d'envoyer d'armées d'occupation dans ce territoire et puis dans d'autres. Et en même temps, ça leur permet tout à la fois d'être plus forts à l'intérieur de leur pays et en même temps, ils ne peuvent pas piller les pays occupés. Donc c'est une double complication. Mais ça leur laisse en tout cas le loisir, surtout parce que un des événements cruciaux, c'est qu'ils ne rompent pas leur alliance avec, puisqu'ils ont toujours un front de guerre extrêmement intense avec les Français et avec les Alliés. Ils ne peuvent pas déclarer la guerre aux Russes, mais ce faisant, ils décident ensemble, l'hiver 1942, d'envahir la Grande-Bretagne, et le rêve de Napoléon, et ils le font l'hiver et par le nord, par l'Écosse, à un moment où c'est réputé impossible, aussi le moment où leur marine est la moins efficace possible, c'est-à-dire au cœur de l'hiver, quand il fait moins 15, et que personne ne pense. Or, il faut savoir que l'armée russe, c'était les moments où elle se battait le mieux, c'était l'hiver. Sur le front germano-russe, les Allemands avançaient l'été et l'hiver, les Russes reprenaient tout le territoire qu'ils avaient perdu parce que voilà, c'était leur, entre guillemets, leur élément naturel. Donc ils entrent en Écosse et puis petit à petit ils descendent parce que l'Angleterre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient les maîtres des mers, ils étaient les maîtres des airs, ils n'avaient quasiment aucune infanterie. De toute façon, ce n'est pas une tradition militaire chez eux. Et le peu qu'ils avaient était occupé en Afrique. Donc de toute façon, ils ont rien pour ils ont quasiment rien pour défendre leur pays, ce qui fait que l'armée qui les envahit, qui est une armée de fantassins, de chars et d'artilleurs, descend assez facilement en Angleterre. Elle est arrêtée à peu près à mi-chemin du pays. Elle reste pendant à peu près un an, mais puis petit à petit, comme toutes les armées d'invasion, de toute façon, elle finit par reculer. Surtout que c'est une armée qui est quasiment impossible à ravitailler du fait de la haute main des Anglais sur la mer et sur les airs. Voilà, donc comme je disais, tout est changé. Et donc tout change, y compris dans les alliances, dans les événements principaux. Et donc j'ai travaillé sur cette chronologie pendant 6 mois, et ensuite j'ai écrit mon album, et ensuite j'ai été voir des scénaristes en leur disant, eh bien voilà le document de base, lis-le, et puis à l'intérieur de ça, cherche un élément que tu as envie de raconter toi. Donc le deuxième tome, je l'ai dit tout à l'heure, racontait la prise de Gibraltar, le troisième tome de Mathieu Gabella raconte une histoire d'espionnage, c'est-à-dire de quelle manière les Américains, les services secrets anglais, réussissent à organiser une fausse tentative d'attentat sur le président américain pour décider l'opinion américaine à entrer en guerre. Parce qu'il faut savoir qu'avant Pearl Harbor, les Américains ne voulaient pas se mêler de cette guerre. Pour eux, c'était une guerre lointaine, elle n'était pas mondiale à l'époque, hein, c'était une guerre européenne. C'était pas leur problème, ils ne voulaient pas en entendre parler, ils ne voulaient pas que les soldats américains, ils l'avaient déjà fait en 14, enfin en 18, en 17, qui viennent verser leur sang pour les Français, pour les Alliés. Il y avait un très fort parti nazi américain qui était extrêmement actif et qui œuvrait dans ce sens, et il fallait un événement fort. D'ailleurs, très souvent, notre chronique, qui donc suit un chemin parallèle avec la véritable histoire, la croise, ou alors croise des événements similaires. L'exemple, c'est qu'en effet, dans ce tome 3, on raconte la fausse tentative d'assassinat sur Roosevelt, qui est orchestrée par des services secrets. Bon, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que Pearl Harbor n'a pas été organisé par les Américains, mais par contre qu'ils le savaient, et qu'ils n'ont rien fait pour l'empêcher, parce qu'il fallait cet événement frappant pour décider l'opinion américaine à entrer en guerre. Donc voilà, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment spécialiste, je n'ai pas d'avis, et puis je me méfie toujours des théories du complot. Ceci étant, les théoriciens du complot, ils ont quand même bien raison quand on analyse la Deuxième Guerre mondiale, parce que des complots, il y en a eu un sacré paquet, et des manipulations énormes, et celle-ci est tout à fait possible. Donc ça, c'était notre volume 3. Le volume 4 se passe en Angleterre. Et encore une fois, on brasse la réalité et puis une guerre fictionnelle. On reprend un personnage célèbre qui s'appelle Vassili Zaïtsev, qui est un tireur d'élite russe qui a sévi à Leningrad pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui était l'objet d'un film et de plusieurs romans. Sauf que cette fois, on prend le tireur d'élite en question qui a réellement existé et on le déplace et on le met en Angleterre. Voilà, où il a en face de lui des tireurs d'élite américains, anglais, et puis un officier allemand qui va s'avérer être, qui est censé être son allié, qui va être son meilleur ennemi, lui aussi. Voilà, donc encore une fois, on arrive à entrecroiser la réalité, mais en changeant complètement le paradigme de départ. Et c'était ça qui était intéressant, et c'est pour ça que les camarades de scénaristes se sont bien amusés sur la série. Voilà, on continue sur les tomes.
Comme vous voulez.
Ouais.
En fait, la réalisation, s'il y avait eu un 8e tome, lequel vous auriez voulu que ce soit ?
Alors moi, quand j'ai écrit cette chronologie alternative de la Deuxième Guerre, le gros problème, c'était de la terminer. Et on sait comment s'est terminée la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est terminée à l'ouest par le débarquement, elle s'est terminée à l'est par Hiroshima. Et voilà, moi, j'avais le gros problème de ça, c'était comment la finir. J'avais un deuxième problème, c'était comment traiter la question des camps. Les camps, ce n'est pas un élément militaire important dans la Deuxième Guerre mondiale, quoique, c'est un élément qui a existé, mais c'est un élément évidemment symbolique extrêmement fort. Et la grosse question qui s'est posée longtemps, c'était qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on fait comme si ça n'existait pas parce que ça ne rentre pas dans le cadre militaire, stratégico-militaire de notre chronique, ou bien parce que c'est un élément fort et presque aujourd'hui quasiment principal pour nous du traumatisme qu'a été la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on l'inclut dans notre histoire ? En dehors de ces deux éléments-là, j'avoue que quand j'ai écrit la chronologie, il y a un événement qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est de faire avancer les chars américains en Mongolie. Et avancer à tel point qu'à un moment, ils se font couper leur ligne arrière par une contre-offensive russe. Et ils se retrouvent, disons-le, comme des cons, voilà, avec leurs tanks, et on est dans un paysage et dans un pays tel qu'ils ne comprennent, ils ne connaissent rien. Et je pense que voilà, si c'était arrivé, je pense qu'il y avait des sacrées histoires à faire. Malheureusement, pour des raisons diverses et variées, voilà, on n'a fait que 7 bouquins et on n'a pas pu faire celui-là. Et le 8e que j'aurais vraiment aimé voir, ça, j'y pense souvent, hein, je sais pas. Je le ferai peut-être un jour, mais hors contexte de la série, parce que la série elle est bouclée. Et je pense qu'il y a une vraie histoire à raconter quand même, au niveau du choc des civilisations et du choc des cultures. Et puis, on a quand même des beaux souvenirs de films racontant comme ça des aventures de poignées de soldats qui partent et qui rentrent dans un territoire inconnu et qui petit à petit se perdent, et se perdent pas uniquement géographiquement, mais qui se perdent psychologiquement. Je pense qu'il y avait des choses intéressantes à faire. Voilà, c'est le 8e album fantôme de la série.
Et en parlant des camps, parce que j'ai envie d'en parler, comment vous avez voulu l'aborder, d'abord graphiquement, à savoir que dans le 7e tome, qui est le dernier et qui est le seul qui, au final, parle des camps, les camps sont traités sans texte, juste à une image brute. Comment ce choix a été fait et comment après le dessin a-t-il été fait et...
Alors, au niveau du scénario, c'était extrêmement compliqué parce que je voulais traiter des camps, mais pas d'extermination, qui est un sujet qui me semble... Pour moi, ce n'est même pas envisageable d'en parler. Voilà, je ne peux pas. Je n'ai rien à dire sur le sujet. Et si jamais je me suis senti un jour dans ma vie illégitime pour raconter une histoire, ça ne sera jamais autant que sur une histoire comme ça. Donc, premièrement, on ne parle pas d'extermination, c'est un camp de prisonniers. Un camp de prisonniers, de forçats, de gens qui travaillent. Il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de prisonniers français, enfin, de tous les pays qui avaient été vaincus. Ils étaient envoyés en Allemagne. Ils travaillaient dans des conditions effroyables à construire pas tellement des armes, etc., parce qu'évidemment, il y a eu du sabotage, mais à construire, en l'occurrence, et c'est ce qu'on raconte dans cet album, ils construisaient les centres et les blocos qui devaient servir à abriter les essais de nouvelles armes sur lesquelles travaillaient les scientifiques allemands. Et il fallait pour moi donc aborder ce sujet en même temps de cette manière-là, c'est-à-dire les camps de prisonniers, mais dans lesquels les conditions de vie étaient effroyables, et puis parfois les prisonniers étaient dans des camps où eux n'étaient pas exterminés, ils étaient utilisés comme de la manœuvre, mais ils étaient aussi dans des endroits où il y avait de l'extermination, donc ils en ont été les témoins. Donc c'est pour ça que on le montre, mais on n'en parle pas. Parce que déjà, un, de toute façon, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Deux, ça n'est pas un élément scénaristique important dans notre histoire, et en même temps, on le montre parce qu'on ne peut pas... Si on ne le montre pas dans notre chronique, on peut aussi nous suspecter d'avoir imaginé que dans notre version alternative de la Deuxième Guerre, ça n'existe pas. Or, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible que ça n'existe pas. C'est vrai parce que l'Allemagne n'a pas envahi la France, c'est vrai parce que l'Allemagne n'a pas envahi plein d'autres pays, dans lesquels notamment ils avaient installé des camps. Il n'empêche que des camps, il y en avait en Allemagne, il y en avait en Pologne principalement, c'est là qu'ils étaient. Et comme dans notre chronique, la Pologne est envahie et l'Allemagne est escalée, de toute façon, les camps sont là. Et je parlais tout à l'heure de la difficulté à trouver une fin. Cette fin, elle tourne autour de l'arme atomique. Bien sûr, de manière extrêmement logique, parce que il faut savoir qu'au moment de leur défaite, les Allemands étaient sur le point d'avoir une arme atomique à peu près viable, probablement viable. Certainement beaucoup moins puissante que l'arme atomique américaine, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens, ils avaient les mêmes moyens financiers. Mais ils avaient des scientifiques très très bons, très très forts. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ont été retournés et emmenés par les Américains pour travailler chez eux. Et ils étaient sur le point de... Et donc il fallait lier... à la fois le destin de notre personnage, qui était celui du tome 1 et qu'on retrouve au dernier tome, qui a vécu 4 ans de guerre, et qui est envoyé en mission en Allemagne pour enquêter et pour essayer de ramener des éléments sur ce qu'à l'époque Himmler, dans notre chronique, c'est le nouveau chancelier allemand, appelait l'arme de la désintégration. Il l'appelait comme ça. Donc ils savaient, et on a des témoignages. Hier, Mathieu me disait qu'il avait lu un témoignage d'un espion russe. Moi, j'ai lu dans un bouquin très long et très ennuyeux, De plusieurs centaines de pages, ça a été très difficile, il n'y avait aucune image. Un témoignage d'un journaliste italien qui a vu une bombe aveuglante, qui a vu un essai de bombe aveuglante dans lequel ils m'ont regardé, je crois qu'ils avaient peut-être mis des lunettes de soleil, encore je ne suis pas sûr. Ils ont été aveuglés pour très longtemps. Il y avait eu des animaux qui avaient été disposés loin, et quand il est arrivé, tout était mort, tout était brûlé, etc. Donc c'était une espèce de. C'était peut-être pas une arme complètement atomique, mais c'était une pseudo-bombe atomique. Il y en a eu au moins une qui a explosé. Et il fallait lier ça, et en même temps, c'était pas très difficile, puisque comme je le disais, des endroits comme Peenemünde, qui était l'endroit où les Allemands, qui est tout au nord de l'Allemagne, au nord-est, où les Allemands faisaient des tests, c'est des endroits où il y avait des blocos gigantesques, et à Peenemünde, il y avait un blocos qui était le plus grand du monde, qui était 35 mètres de haut à l'intérieur, et tout ça a été fabriqué entièrement par des prisonniers, d'ailleurs des prisonniers allemands aussi, hein, des droits communs, des communistes, etc., toute la manœuvre que pouvaient utiliser les nazis. Et il fallait lier les trois éléments à l'intérieur de l'album. Pour la documentation, Hervé va nous en parler.
Alors oui, donc ça, ça a été deux pages sans texte. Alors je savais que David m'avait prévenu que parler de camp de concentration, il fallait que ce soit pas fait forcément de manière brute et les cadrages qu'il m'avait indiqué jouaient dans ce sens-là, c'est-à-dire on va avoir un gros plan à un moment, essayer d'expliquer les choses mais sans trop les montrer abruptement. Alors j'ai dû passer à peu près, je pense, 2-3 mois à me documenter, enfin, tout en faisant d'autres choses, mais à me documenter sur les différents sites qu'on peut trouver sur le net, qui d'ailleurs est un outil qui, pour les dessinateurs, actuellement est super intéressant parce qu'on peut trouver à peu près tout, notamment sur cette période qui est la Seconde Guerre mondiale. Voilà, en temps réel, on a besoin de tels éléments de documentation, on va sur le net et on trouve. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a facilité énormément le travail. Et donc, voilà, je suis allé sur le site d'Auschwitz, j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait trouver en photographie. Je m'en suis servi plus ou moins directement. Et tout en essayant de ne pas donner un aspect trop dur, enfin, et puis voilà, de montrer que qu'est-ce que j'ai à dire de plus que ce qui a été fait là-dessus en dessin, quoi, et puis juste expliquer l'histoire et puis essayer de me donner des images un peu dignes, en fait. Voilà.
Oui, parce que chacune de ces planches. Beaucoup de regards aussi de prisonniers qui regardent d'autres se faire maltraiter ou qui contrairement à certains films on peut voir des gens qui détournent le regard, là on a vraiment l'impression que ils regardent l'horreur qui est en face d'eux.
En fait c'est une scène qui est racontée par un des personnages que notre personnage principal va rencontrer, qui d'ailleurs au final David, tu disais que ça n'avait pas d'importance au niveau du scénario, mais ça va quand même changer la fin de l'histoire. Le personnage principal va vraiment découvrir ce que sont ces camps de concentration, et voilà, ça va avoir une implication dans la fin de l'histoire. Et donc c'est cette scène dans le camp d'extermination, elle est racontée en fait par ce personnage au héros. Voilà, donc c'est sa vision à lui, c'est ce qu'il a retenu, c'est pas tout l'ensemble, c'est vraiment un regard particulier. Donc comme c'est un regard particulier, les points de vue sont pas généraux, ils sont sur des détails, quelque part.
Alors, la difficulté, c'est... Enfin, je raconte l'histoire, c'est qu'en fait, voilà, ce soldat français, il est envoyé en Allemagne avec deux autres, avec un soldat et un scientifique, ils sont parachutés de nuit, ils arrivent pas très loin de Peenemünde, et ils sont chargés d'essayer de rentrer, enfin, c'est un peu une mission suicide, hein, ils ont quand même peu de chance d'en revenir, et ils sont chargés de rentrer dans ce centre de test d'armes allemands et d'essayer de voir le maximum, de faire du si possible du sel. À la fois de recueillir de l'information, de faire du sabotage, et de revenir vivant. Et revenir vivant, c'est une option. Et en fait, ils vont tomber sur des gens qui se sont échappés d'un camp de prisonniers. Parce qu'il peut, sur la fin de la guerre, et pendant tout le long de l'histoire des camps, il y a eu des rébellions, il y a eu des évasions très peu. Il y a eu des rébellions, il y a eu des tentatives de reprise de contrôle des camps, des évasions dans certains camps très très peu, puisque je pense qu'il me semble qu'Auschwitz, il y a eu une ou deux personnes qui ont réussi à s'en évader vraiment, vraiment complètement. Il y en a un dont j'ai lu l'autobiographie qui raconte son évasion, enfin, il raconte son enfermement et son évasion, et c'est complètement hallucinant. Mais pour un qui a réussi, il y en a des milliers qui ont tenté, qui sont morts, mais il y a quand même eu de vraies rébellions, et il y a eu des combats, parfois même sur plus vers la fin, vers la libération. Il y a des camps dans lesquels les prisonniers ont pris le contrôle, ils ont tué les gardiens, etc., ou en tout cas, ils ont essayé. Et il se retrouve face à ces gens, et le gars lui raconte ce qui se passe dans les camps. Et il est stupéfait de ce qu'il entend. Il est plus stupéfait dans le truc redit que l'aurait été un soldat français, probablement dans la réalité de l'époque, parce que quand la France était occupée, il y avait de la perméabilité entre les deux pays. Il y avait des gens qui bougeaient, il y avait des prisonniers qui allaient, qui revenaient, etc. Et il y avait des gens qui disaient des choses. Alors, tout le monde ne savait pas, tout le monde ne savait pas tout, on savait certaines choses et pas d'autres, mais Viens, Étienne, viens parler avec nous. Allez, hop. Et
Étienne Leroux, dessinateur du sixième tome.
Ah oui, on n'en a pas parlé encore, on t'attendait. Tu vas nous raconter tout ça. Et il y avait là, c'est à partir du moment où il y a une ligne de front bloquée entre la France et l'Allemagne, qu'il n'y a pas de pays occupé, il n'y a pas de perméabilité. Et donc on peut penser que les gens, les Français, en tout cas une bonne partie des Français et des soldats ne savent rien de ce qui s'y passe. Donc lui, il est stupéfait de ce qu'il entend, et c'est cette stupéfaction qu'on a donné à montrer. En fait, il reçoit des informations et qui, je pense comme nous tous, à un moment ou à un autre de notre vie, quand on a appris ce qui s'était passé dans les camps, il y a une forme de sidération. On a même du mal à y croire. Il faut du temps, et pour nous, pour notre génération, il a fallu des images et des choses qui nous prouvent que lui, il entend ça, et il est pris complètement dans un dilemme entre son devoir des soldats qui est de continuer sa mission et son devoir d'être humain qui est de les aider. Et c'est ce que, je ne vais pas raconter la fin, mais c'est ce que raconte cet album. Voilà, mais ça c'était le dernier, mais nous allons revenir en arrière à l'avant-dernier.
Exactement.
Et nous allons voyager très loin jusqu'en Chine.
Parce qu'on a parlé des camps, mais d'autres horreurs sont passées pendant la guerre et en Chine principalement. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Nankin et du coup de sa version, de sa nouvelle version, sa version uchronique?
Je ne peux pas préciser un peu la question.
Les massacres qu'il y a eu là-bas, les camps prisonniers, tout à l'heure on parlait de ça sur les camps, mais au final ça existait aussi en Asie et c'était parfois tout aussi horrible.
J'avoue que j'ai découvert un peu ces événements en devant dessiner l'album. J'avais lu deux lignes sur les histoires de Nankin dans les bouquins d'histoire, mais deux lignes quoi. J'ai d'approfondir et de voir des documentaires, de voir des choses comme ça. Oui, c'est une histoire absolument atroce qui s'est passée quoi, 4 ou 5 ans, non, même 10 ans avant les. 5-6 ans avant les camps de la mort. Quoi. Les Japonais de l'ère Showa, ils étaient cruels. Hein, que dire d'autre? Même mon histoire, elle est plus intime, peut-être. Je pense que c'est vraiment l'histoire d'une relation extrêmement perverse entre un prisonnier et l'homme qui l'a fait prisonnier.
Et du coup, au niveau du scénario, au niveau de la chronologie, comment ça a été dépeint et comment ça a été choisi?
Alors en fait, il y a eu plus que des scénaristes qui sont venus choisir des éléments dans de la chronologie que j'avais écrite. Certains d'entre eux ont également modifié ma chronologie, soit parce qu'ils ont eu des choses avec lesquelles ils étaient en désaccord, ou des autres idées, on en a discuté et j'ai changé, soit parce qu'ils m'ont dit « moi j'ai une idée, à partir de ce que tu as écrit, qui serait ça », mais du coup ça change un petit peu la donne de ce que tu as écrit. Et donc j'ai remodifié ma chronologie en fonction. Et c'est ce qui s'est passé avec Hubert. Et Hubert, qui est le scénariste de Chien jaune, décidé par Étienne, avait décidé de transposer, entre guillemets, le conflit, le massacre de Nankin à Pékin. Voilà, il a refait l'histoire, il a expliqué pourquoi, pour une série de contre-attaques chinoises qui ont fait beaucoup de dégâts dans l'armée japonaise, les Japonais avant décident de faire un exemple, et ils décident de détruire Pékin. Et le seul et unique témoin de cette destruction, c'est un jeune officier américain qui va se retrouver à devenir l'esclave personnel d'un général japonais. Donc c'est à la fois une histoire globale et c'est en même temps l'histoire de l'affrontement entre deux hommes. Donc, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une histoire racontée à hauteur de soldats. Et par contre, Étienne, j'aimerais que tu nous entretiennes du parallèle que tu fais entre Chien jaune et un autre héros de la bande dessinée française affublé d'un chien.
Non, qu'est-ce qui reste comme doc sur la Chine des années 30 en bande dessinée J'ai regardé le Lotus Bleu en dessinant, et puis c'est un peu une sorte de Lotus Bleu pervers, ce qui est l'histoire de Hubert.
On est bien d'accord. Tu le savais dès le départ ou...
Non, j'ai pas fait du tout attention. Après coup, je m'en suis rendu compte.
Il est pervers, hein, cet Hubert.
Ça bien vu. Hein. Quel dommage qu'il ne soit pas là.
Ah bah oui.
Il en parlerait bien mieux que moi, il y en aurait pour 2 heures.
Ouais, mais je pense qu'il a bien ricané quand il s'est dû s'apercevoir que personne ne l'avait vu et qu'on s'en apercevrait après.
Ouais, non, c'est. Mais.
Ouais, oui.
Et du coup, pour le dessin, même question pour les gens, comment on dessine cette cruauté, comment on le vit de dessiner tout ça, comment on se renseigne, comment on se documente. Donc apparemment, le Lotus Bleu, mais à part ça...
Tu as fréquenté des établissements spécialisés?
Non, pas du tout. J'ai pas dessiné, je pense. J'ai été abusif, je crois. Je me suis...
il suffit de bouger la caméra au moment où ça va faire mal. C'est toujours, quand la tronçonneuse s'approche de la tête, on bouge la caméra, puis ça fait très mal quand même. C'est un jeu pour cette mise en scène, d'essayer de faire sentir sans montrer. Comme j'ai pas d'amour pour les scènes de l'ordre, pour les gens de jeu comme ça, c'est vraiment pas le truc que je m'amuse à dessiner quand j'ai envie de le faire. J'aime bien me confronter à cette difficulté. J'espère avoir réussi.
Et comment s'est passé, dans le sixième tome, il y a notamment un moment où un Chinois dit un Américain estropié vaut plus qu'un million de Chinois morts pour les Américains. Est-ce que ça avait une importance symbolique tout aussi forte que Pearl Harbor, mais de l'autre côté, que Pearl Harbor ou que la tentative d'assassinat ratée et complot dans certaines versions, mais du côté chinois, c'est-à-dire pour s'allier avec les Américains, est-ce qu'on est prêt à se dire, on va mettre de côté le fait que un million de morts chinois ont été faits, et qu'au final, le plus important pour ceux qui pourraient nous aider, c'est qu'il y en ait un des leurs qui a été estropié.
Ah, c'est un peu vrai encore maintenant, non, en Syrie, un journaliste, plus que combien de civils
un soldat américain, ça vaut combien d'Irakiens?
Oui, il doit bien.
Par contre, ce qui est intéressant, encore une fois, dans le jeu uchronique de la série, dans ce que raconte Hubert, c'est que ce type, il survit. Et il est le témoin du massacre qu'il a vu. Il le raconte à l'état-major américain, il veut le raconter au Congrès, il veut le raconter au président. Les Américains sont bien emmerdés, puisque c'est leur allié, les Japonais. Donc il ne faut surtout pas que ça se sache. Voilà. Donc ils ne laisseront pas éclater la vérité au grand jour, de toute façon. Et le massacre de Pékin, dans notre uchronie, reste relativement méconnu. Comme le massacre de Nankin reste relativement méconnu. Mais là, c'est pour d'autres raisons. Pas pour des raisons d'alliance, mais parce que voilà, c'est des pays lointains. Et puis c'est une mémoire qui n'est pas arrivée jusqu'à nous. On a déjà embarrassé avec celle de notre propre part du conflit. On ne peut pas porter celle des autres.
Je crois qu'on approche de la fin. Est-ce qu'il y a quelques questions?
Oui, il me semble que le monsieur avec un bracelet vert et un gilet gris a une question à nous poser.
Si on n'a pas de questions, peut-être que ce monsieur avec un bracelet vert peut nous parler du troisième tome.
Sinon, on chante une chanson, c'est comme tu veux.
Hein?
Tu chantes?
Oui, bonjour.
Allô, 1, 2, 3.
Oui, ça marche.
Je suis Mathieu Gabella, le scénariste du troisième tome.
Alors,
le troisième tome, c'est la suite du troisième testament.
J'aurais bien aimé.
Pourquoi avoir choisi cette histoire-là?
Parce que je voulais faire de l'espionnage, et parce que les concepts permettent, même les concepts sur la Deuxième Guerre mondiale, permettent d'avoir un cahier des charges, j'aime cette expression, David ne l'aime pas, mais un cahier des charges léger, des contraintes légères qui nous permettent d'écrire à peu près ce qu'on veut, en ayant des guidelines, je le dis avec un accent anglais relativement convaincant, je crois. Et donc, c'est je voulais écrire de l'espionnage, ça s'y prêtait extrêmement bien, parce que c'est l'âge d'or de l'espionnage avec la guerre froide. Donc, évidemment, je voulais le personnage dans l'anglais. Après quelques tractations, j'ai pu raconter cette histoire avec un héros anglais, et reprendre, j'ai envie de dire, peut-être pas tous les poncifs, mais en gros, tout ce qui fait tous les éléments de la culture de l'espionnage, c'est-à-dire le cryptage, les techniques, la filature, les déguisements, toutes ces choses qui sont réelles, qui ne sont pas du tout grand bouillon. Et je vais me faire plaisir comme ça dans ce troisième tome. Parler de la Russie, évidemment, l'autre pays de l'espionnage. Voilà. Bref, je me suis fait plaisir. J'avais pas envie de faire des champs de bataille, j'aimais pas les morts.
Et le héros de ce troisième tome est un peu particulier quand on compare finalement aux autres. C'est que finalement, lui, c'est pas un soldat de base, mais il est à part, il est dans l'espionnage, il est extrêmement intelligent, il est extrêmement influent. Il est proche des grandes personnalités. C'est dans ce tome-là qu'on voit les plus hauts gradés
En fait, les, à partir du moment où il était anglais, il était dans l'espionnage, c'est réel. Il faisait partie de l'aristocratie. Enfin, l'élite anglaise, c'était l'aristocratie anglaise. Les officiers anglais étaient souvent des aristocrates. Les meilleurs espions anglais avaient fait les meilleures écoles. Donc, voilà, c'était. Ils faisaient dès la naissance partie de l'élite britannique. Et donc, c'était des gens bien nés, très souvent. Donc, oui, il y a tout le réseau relationnel qui joue, qui est important. Alors, ce personnage-là est un peu légèrement un anti-héros, parce que on le dit un petit peu, il n'en a rien à foutre. Mais en fait, il est. Tous les officiers du MI5, du MI6 de l'époque étaient des aristos, quoi, les gens du Foreign Office, etc. C'était bon. Et puis alors les ministres, Lord Halifax, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc,
Et du coup, on a eu le point de vue de deux dessinateurs, mais du coup, comment ça se passait pour le travail scénaristique dans un concept? Comment on fait?
Alors, sur un concept, donc on a ces fameuses bases de départ. Là, ils étaient un petit peu plus pointus parce qu'il y avait une chronologie détaillée de monsieur, avec en gros une chronologie de la Deuxième Guerre mondiale et en bleu dedans les événements qu'il avait créés, qui se décollaient de la réalité, il fallait piocher. Donc un certain nombre de choses avaient déjà été prises. Il y avait une tentative, l'entrée en guerre dans sa chronologie, l'entrée en guerre des États-Unis, c'est pas Pearl Harbor, c'est une tentative d'assassinat sur Roosevelt. Et moi, j'y ai vu un moyen de faire cette fameuse histoire d'espionnage, parce qu'un truc qui est méconnu chez les Anglais, c'est que non seulement c'était des espions, non seulement ils ont cassé Enigma, mais surtout c'était des pros de la mystification. C'est-à-dire créer des fausses pistes, notamment pour tromper les Allemands sur l'endroit où ils pouvaient débarquer. Ça a joué un rôle très très important dans la réussite du débarquement. Et donc je me suis dit, tiens, et si dans cette chronologie, la tentative d'assassinat sur Roosevelt par un agent communiste, c'est comme ça dans la chronologie, ça fait entrer les États-Unis en guerre, et si en fait c'était les Anglais qui avaient fait ça pour pousser les Américains à la guerre. Donc voilà, c'est parti comme ça, ça a été accepté. Bon, après, je sais que je suis bon, voilà, il ne va pas recruter pour rien, donc il fait des confiances.
Et du coup, est-ce que c'était pas un peu gros? Est-ce que c'était pas trop difficile, ça?
Alors, le problème qu'on a avec l'Uchronie, surtout dans l'espionnage, et notamment la tradition anglaise de l'espionnage, la tradition de la mystification, c'est qu'en fait, les Anglais ont fait des trucs qu'on ne pourrait pas imaginer. On va parler un peu, ils ont créé des tanks gonflables pour faire croire aux Allemands qu'il y avait des convois de tanks qui se baladaient dans certaines parties du désert africain alors qu'en fait il n'y en avait pas. Leurs propres convois, ils ont réussi à les déguiser en campement, en base, alors qu'en fait c'était des camions qui se déplaçaient la nuit. Il y avait un historien qui pouvait en parler mieux que moi, mais c'est des choses que j'ai lues effectivement. Il y a eu un coup magnifique, c'est d'avoir balancé un cadavre dans la flotte avec des cartes de débarquement. Le cadavre a échoué sur une plage espagnole, ils l'ont retrouvé, ça a été transmis au service allemand, qui se sont dit, ok d'accord, il y a un projet de débarquement sur les côtes espagnoles. Ce qui était absolument faux, ils ont gobé le truc. Et au bout d'un moment, les Allemands se rendaient bien compte, en fait, les Anglais inventaient tout et n'importe quoi, et ne savaient plus quoi croire, en fait. Et c'est tout le problème. La tradition anglaise de mystification, dans une uchronie, c'est problématique, parce que ce qu'ils ont fait dans la réalité, dans la vraie Deuxième Guerre mondiale, et j'invite les gens à lire là-dessus, c'est incroyable, incroyable. Et donc, moi, j'avais le problème de la crédibilité, c'est-à-dire que si je voulais faire plus, on m'aurait dit c'est impossible. Et même si je voulais faire quelque chose de réaliste, on m'aurait dit c'est quand même très gros. Et en fait, c'est sans doute en dessous de la réalité.
Je vais me permettre une dernière question sur... du coup, là, on a tout le côté militaire avec ces 7 tomes, mais est-ce que vous auriez voulu faire un peu plus sur, je sais pas, des côtés politiques, notamment, puisque au final, chaque tome s'ouvre sur ce qui se passe, mais la guerre se joue aussi entre diplomates, entre aussi... même dans les soldats de base, enfin, comment réagit les comment peuvent réagir les gens du PCF en France quand l'allié de l'Allemagne c'est Moscou, donc voilà. Est-ce que vous auriez voulu en faire plus? Est-ce que ça vous aurait intéressé?
Dans un conflit comme la Deuxième Guerre mondiale, il y a trois aspects. Il y a l'aspect purement militaire, qui est celui qu'on a traité. Il y a l'aspect politique, qui est celui qu'on a peu traité. On en parle un petit peu et ça irrite certains des récits, mais on n'avait pas forcément la place pour. Et il y a le point de vue des civils, qui est également crucial, puisque généralement, ces guerres-là font toujours plus de morts chez les civils que chez les militaires, encore plus les guerres modernes. Donc on avait sept albums, de 50 à 60 planches. C'est beaucoup et finalement, c'est peu. Sur 50 conflits, comme d'une guerre mondiale, on pouvait en faire 700. Je pense même qu'on pouvait en faire 7000, et il y avait encore de la matière. Donc voilà, moi j'ai choisi le point de vue militaire, le point de vue des soldats. On a essayé, dans certains des albums, il y a quand même des histoires politiques. Que ce soit dans l'histoire des soldats, du soldat espagnol, que ce soit dans l'album de Mathieu, on en parlait tout à l'heure dans celui d'Étienne et Hubert, mais c'est vrai que... On pourrait faire un WW2.3 qui serait entièrement du point de vue politico-stratégique, et ce serait à mon avis tout aussi passionnant, mais ce serait plus la guerre comme elle l'était dans notre cahier des charges à hauteur de soldats, à hauteur du troufion, et moi c'était cette guerre-là que je voulais raconter. Voilà.
Par exemple, l'aspect politique dans le lien, on évoque le fossé politique colonial. Parce que un des objectifs de Churchill, et une de ses grosses inquiétudes réelles, dont je parle un peu dans le chronique, c'est que qu'allait devenir l'Empire britannique après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, il pensait déjà pendant qu'il cherchait à affronter les Allemands. Il savait très bien que l'entrée en guerre des Américains s'était laissé une nouvelle puissance dominante très dangereuse, parce que même si lui est un stratège, les Américains, c'est la force derrière, c'est le pouvoir matériel, c'est eux qui gagnent la guerre, même si c'est lui qui les manipule un peu. Certains le présentent un peu comme ça, certains historiens. Et les Américains sont anticolonialistes, bon, ça fait sourire, parce qu'en fait, les Américains sont anticolonialistes quand il s'agit des autres, évidemment. Et ça inquiétait déjà beaucoup Churchill. Se dire que voilà, que ce soit les Américains, les Russes, je ne sais pas si on y pensait déjà à l'époque aussi, parce que dans les faits, les Russes aussi ont joué un rôle important là-dedans, dans la décolonisation. Les anciennes colonies se sont tournées, les colonies françaises se sont tournées aussi vers l'URSS, mais voilà, cet aspect-là, on l'évoque dans le livre, en fait, parce que c'est une problématique aussi de la Deuxième Guerre mondiale, déjà à l'époque, en tout cas dans la tête des élites, la question se posait déjà, de savoir ce qu'allait être l'après-guerre au niveau des colonies.
C'est bon ?
C'est bon.
Parfait. Eh bien, vous allez pouvoir les retrouver en bas à la librairie pour une séance de dédicace. Et maintenant, ça va être une rencontre avec Fabien Wellmann.
Fabien Wellmann, entre ici, Fabien Wellmann. Toi et ta cohorte de spiritude.
Merci à tous.
Toi, le génial inventeur de Seul. Approche. Viens, entre. Entre et je t'adouberai. Viens postillonner dans mon micro. Ben, tu vas voir, déshabille-toi. Merci Fabien.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Je l'ai dédicacé pour toi.
C'est donc ici le bar Spock.
Tu parleras dans mon micro, pas celui des autres.
D'accord.
Il est chaud.
C'est celui-là que je vais garder. Ouais.
Ah oui, c'est vrai, ma veste. Ah.